up.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de finir la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, médias et culture au sens large. Aujourd'hui, jeux vidéo et gastronomie, des cadeaux comestibles qui se mangent pour Noël. Nous sommes le 18 décembre 2020 et si je donne la date, c'est parce que Jean-Pierre Pernaut va présenter aujourd'hui son dernier 13h sur TF1. Il part pas à la retraite pour autant, vous le savez, mais on voulait le saluer. Un tiers de siècle depuis son premier JT, le 22 février 88. C'est comme si Culture Média était encore là en 2052. Bonne route. De route et de longévité, il en sera également question dans notre infomédia avec les routes de l'impossible. L'émission fête ses 13 ans et nous serons avec son créateur, Tony Comiti. Nous invitons ensuite la comédienne Valérie Bonneton et Guillaume Renouille, pardon, heureux producteur de la série Fais pas ci, fais pas ça. Série qui revient pour un unitaire inédit ce soir. Y aura-t-il Noël à Noël? Très bon titre d'actualité. Enfin, la journaliste et médecin Marina Carrère-Dancos pour son premier roman, pour son premier polar très efficace, Les enfants du secret. Mais on va également parler du magazine de la santé car il y aura du nouveau à partir de janvier et il y aura en prime son portrait inattendu par Hélène Manarino. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, le sommaire du jour.
Le dernier journal de Jean-Pierre Pernaut, Arthur qui ne se laisse pas faire, la Provence qui ne se laisse pas faire. On aura deux focus programme et le retour d'une série culte.
Mais on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé.
Pas de surprise en tête des audiences, c'est la série Balthazar sur TF1 qui s'est imposée. Le dernier inédit de la saison 3 et la rediffusion qui suivait ont réuni en moyenne 5 200 000 téléspectateurs, soit 25% du public. Et TF1 est aussi très largement leader sur les FRDA, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, à 26% de part d'audience. France 2 suit avec un nouveau numéro d'envoyé spécial au compteur 2 millions de personnes et 9,3% de part d'audience. La surprise, voire les surprises, elles arrivent ensuite. En troisième place, c'est France 5 avec son documentaire Titanic. Au cœur de l'épave, 1 300 000 téléspectateurs.
C'est ce que j'ai regardé, je suis dedans.
Voilà, et donc France 5 est devant M6, qui est très faible avec du cinéma, La planète des singes, L'affrontement. Et on notera aussi la très mauvaise performance de France 3, qui est 7e chaîne de France, derrière W9 et TFX, avec la suite de sa série Black and White, qui avait déjà mal démarré la semaine dernière. Là, elle est carrément sous le million et a seulement 4,4% de part d'audience.
Culture Média.
Et je l'ai dit en préambule, on ne pouvait pas commencer ce journal des médias autrement que par les adieux de Jean-Pierre Pernaut au 13h de TF1.
C'est un événement médiatique national. Le journaliste fait la une de quelques journaux aujourd'hui, celle du Courrier Picard notamment, où il éclipse l'annonce du Covid d'Emmanuel Macron, celle du Parisien aussi, même l'équipe évoque son dernier JT qui démarrera dans un peu moins de 4 heures. Un JT très particulier qui durera une heure au lieu d'une demi-heure. Jean-Pierre Pernaut fera un tour de l'actualité pendant une quinzaine de minutes avant que les manettes ne lui échappent. Il y aura alors beaucoup de surprises concoctées notamment par ses collègues Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray.
Et ce dernier journal sera également l'occasion de passer officiellement le relais à Marie-Sophie Lacaro.
Oui, Jean-Pierre Pernaut la recevra sur le plateau pour la présenter aux téléspectateurs de TF1 avant qu'elle ne prenne les rênes du journal. Ce sera le 4 janvier prochain. Entre-temps, c'est Jacques Legros, son joker historique, qui assurera la présentation. Reste une inconnue, l'audience que réalisera ce dernier 13h de Jean-Pierre Pernaut. Depuis le début de la semaine, ces derniers JT fédèrent en moyenne 5 900 000 téléspectateurs. C'est 45% du public et 34% des femmes de moins de 50 ans.
Ça monte encore, parce qu'habituellement, il fait 41%, ce qui est déjà un score astronomique. Et on rappelle que Jean-Pierre Pernaut ne part pas à la retraite. Il lance aujourd'hui son site internet JPPTV. Il va présenter une nouvelle émission sur LCI à partir du 9 janvier. Encore un mot pour saluer donc la longévité de la carrière de Jean-Pierre Pernaut. Bravo Jean-Pierre, et à bientôt peut-être à la radio. TF1 toujours, 13h encore, mais celui du week-end présenté par Anne-Claire Coudray. Édition spéciale dimanche, la journaliste va emmener les téléspectateurs au Mali.
Elle est partie à la rencontre des militaires français présents depuis bientôt 8 ans dans le pays pour lutter contre les groupes armés djihadistes. La journaliste et son équipe ont voulu prendre une photographie de la situation sur place alors qu'une réduction de la présence française est envisagée pour 2021. Elle a expliqué à Louise Bernard ce que les téléspectateurs verront dans cette édition spéciale et pourquoi elle avait voulu donner la parole aux soldats.
fera 12-13 minutes, ce qui est énorme dans un journal télévisé, mais on avait vraiment envie de savoir aussi le sens de leur engagement à titre personnel, à hauteur d'homme. Et puis on pense aussi à la population malienne, donc on est allé voir aussi des programmes de développement, parce que la France, elle ne se contente pas d'intervenir militairement, elle essaye aussi de faire du développement, parce que la victoire militaire, finalement, n'est qu'un commencement.
Rendez-vous dimanche à 13h sur TF1.
Arthur ne va pas se laisser faire.
L'animateur-producteur envisage de saisir la justice parce qu'il s'estime victime d'une campagne de dénigrement organisée. Tout a commencé la semaine dernière avec le lancement de sa nouvelle émission District Z, on en a beaucoup parlé. Elle a été très commentée et parfois violemment critiquée sur les réseaux sociaux, à tel point qu'Arthur a commandé une étude à une agence de communication de crise qui a fait une trouvaille étonnante, selon Le Parisien. Près de 400 faux comptes Twitter, certains sans abonnés ou sans autre tweet, se seraient mis à publier des messages négatifs contre l'émission et à liker d'autres critiques pour les rendre plus virales. Ces 400 comptes auraient un point commun. Ils soutiendraient régulièrement les émissions Koh-Lanta, La Carte au Trésor ou Fort Boyard, toutes produites par ALP, qui est une société rivale de celle d'Arthur. La société de production n'a pas souhaité faire de commentaires.
La Provence non plus ne va pas se laisser faire.
Le quotidien régional révèle dans ses colonnes que l'un de ses journalistes a été menacé et insulté par André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM. Ça s'est passé mercredi soir à Rennes, devant des témoins. La Provence parle même d'intimidation physique et condamne fermement cette attitude, promettant qu'elle ne restera pas sans suite. L'Union des journalistes de sport en France s'est par ailleurs saisie du dossier.
Sport toujours, on saura dans 4 jours si le tribunal de Nanterre valide ou non l'accord conclu entre la Ligue de football professionnel et Mediapro.
Le verdict sera rendu mardi prochain. A priori, il sera favorable selon l'équipe. Si c'est bien le cas, la Ligue récupérera ses droits de retransmission et pourra officiellement entamer des discussions avec d'autres partenaires, à commencer par Canal+. En attendant qu'un nouvel accord soit conclu, la chaîne Téléfoot de Mediapro continuera à émettre jusqu'au 31 décembre, voire quelques semaines de plus si la LFP a besoin d'un peu plus de temps.
Et puis le focus programme du jour, c'est le retour de la Guerre des Trônes sur France 5.
La chaîne dévoilera à 20h55 la 4e saison de sa série documentaire commentée par Bruno Solo. Au programme de cette nouvelle salve de 6 épisodes, le Roi Soleil, mais pas seulement, comme l'a expliqué le comédien à Louise Bernard.
Louis XIV est au cœur de notre dispositif, mais en fait l'idée c'est qu'on ne parle pas que de Louis XIV, on parle tout autant évidemment de l'Europe, donc on parle de Guillaume III d'Orange en l'occurrence, qui était le grand ennemi, Guillaume le Conquérant, le grand ennemi de Louis XIV, on parle de Charles Ier et Charles II d'Angleterre, de Philippe IV d'Espagne, donc on essaye vraiment d'irradier sur toute l'Europe, mais comme nous sommes français évidemment on se sert comme axe central de Louis XIV et de sa cour.
Et du coup, petite correction, puisque j'ai dit que le journal d'Anne-Claire Coudray, ce serait le 13h dimanche, ce sera dans le 20h, évidemment, qu'elle fera cette page spéciale sur le Mali. Et donc, pour en revenir à la Guerre des Trônes, pardon, les deux premiers épisodes de la Guerre des Trônes, c'est ce soir à 20h50 sur France 5.
C'est bientôt Noël, donc on a un deuxième focus programme du jour.
Et vous pourrez même le regarder après le premier, puisque ce sera à 00h30, cette fois sur France 3, ça s'appelle Famille tu me hais, c'est un documentaire consacré à l'homophobie, et pas n'importe laquelle, celle qui brise des familles, qui pousse des parents à mettre leurs enfants à la porte. On en parle peu finalement, alors qu'elle est peut-être la plus difficile à vivre pour celles et ceux qui en sont victimes. Le film suit des jeunes qui ont été exclus du foyer familial en raison de leur orientation sexuelle et leur reconstruction après cette épreuve traumatisante. Le réalisateur Gaël Morel a révélé à Louise Bernard ce qui l'avait le plus marqué.
J'étais marqué à la fois par leur résilience et l'enfer de ce qu'ils avaient vécu. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des situations terribles, quoi, avec des tentatives de meurtre, des coups, des insultes, et qui se pratiquaient depuis qu'ils étaient préadolescents jusqu'à la sortie de leur adolescence par leur famille. Et je trouvais qu'ils avaient malgré tout une résilience, une croyance en l'avenir, alors qu'ils avaient été saccagés, détruits avant de se construire.
Famille, tu me hais, c'est ce soir à 00h30 sur France 3, puis en replay sur France.tv.
Et on termine ce journal avec la résurrection d'une série culte.
Vous avez forcément reconnu le générique de La Petite Maison dans la Prairie. Un remake de la série a été mis en route aux États-Unis par les studios Paramount. Charlene Gals et la méchante Nellie Olson pourraient donc revivre si une chaîne ou une plateforme de streaming est séduite par le projet. Alors, vu la popularité de la série originale diffusée de 1974 à 1982 aux États-Unis et encore programmée en ce moment même, là tout de suite en France sur TVA, ça semble probable.
Et puis un mot encore pour saluer Ève Roger, la chef du service culture et société d'Europe 1 qui quitte Europe Europe. Aujourd'hui, elle rejoint Le Parisien où elle va devenir directrice adjointe de la rédaction. Bravo à elle et merci Ève Roger. Merci Charles Ingalls de Caen. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, c'est notre info média du jour. On va revenir sur la série documentaire Les routes de l'impossible sur France 5. Si vous n'avez jamais vu cette série, regardez ça, ça fait froid dans le dos. Trois nouveaux épisodes pour les fêtes. Il est en train de garer son camion. Tony Comiti, le producteur. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Blondel.
C'est l'une des séries documentaires les plus anciennes de la télévision, Les Routes de l'Impossible. Cela fait 13 ans qu'elle est diffusée sur France 5, près d'une centaine d'épisodes déjà qui nous emmènent sur des routes chaotiques, dangereuses, vertigineuses. Mais pas seulement, elle nous permet également cette série de découvrir un pays ou une région, de parler de questions sociales, économiques. Eh bien ces Routes de l'Impossible reviennent pour les fêtes de fin d'année. Trois épisodes inédits diffusés à partir de demain. Bonjour Tony Comiti.
Bonjour Philippe.
C'est vous qui produisez Les Routes de l'Impossible, 13 ans. Est-ce que vous attendiez une telle longévité, pour dire les choses autrement, est-ce que vous attendiez à ce que la route soit aussi longue ?
Il y a 13 ans, au début, avec Patrice Lucchini, qui est le directeur de la collection des routes de l'impossible, on pensait qu'on allait en faire 3 ou 4, mais l'audience est arrivée. France 5, on collait tout à fait à l'écriture de France 5 sur la découverte et l'aventure. Donc voilà, mais on s'est dit au départ on va en trouver 3 ou 4, c'est compliqué de les trouver les routes de l'impossible.
Bien
mais
sûr.
À force d'en faire finalement et avec les réseaux de correspondants qu'on a, eh ben écoutez, on a le choix maintenant et voilà, donc
hier on recevait Philippe Googler qui présente les trains les trains de l'impossible, les trains pas comme les autres.
Ouais,
et quand on voit l'émission, on n'a qu'une envie, c'est d'être dans ce train. Et moi quand je regarde votre émission, j'ai qu'une envie, c'est de ne jamais aller sur cette route et surtout pas dans les camions et dans les bus qui font 50 mètres de long et que la route elle ferait pas passer un âne. Racontez, qu'est-ce que ça raconte, les routes de l'impossible ?
Écoutez, ça raconte d'abord la difficulté des gens qu'on filme, que ce soit en Colombie, au Brésil, au Ghana et tout ça, pour se déplacer. Ces gens-là, ils galèrent, mais c'est juste pour manger, quoi.
Ouais.
Donc, alors, ce qui est formidable, c'est que quand des reporters occidentaux débarquent au fin fond des forêts ivoiriennes, par exemple, les gens, ils sont un peu effrayés de nous voir. Et finalement, on arrive à les convaincre. Et ils sont finalement, au bout du compte, ils sont fiers de nous montrer leur vie. Et ils sont fiers de voir qu'on s'intéresse à eux.
À les convaincre de quoi ?
D'être filmé, c'est pas si simple, parce qu'aujourd'hui, les journalistes, avec les caméras, surtout occidentaux, quand on débarque dans des pays comme la Colombie, bon, ils vont parler de drogue. Quand on parle en Côte d'Ivoire, ils vont parler des hommes. Mais non, nous, ce qu'on essaye de faire précisément, c'est de partager la vie de ces gens-là. Et on la partage tellement que finalement, ils nous font confiance et voilà.
Justement, demain, vous nous emmenez sur les routes de Terre Rouge de Côte d'Ivoire. On est avec les Ivoiriens, on les suit dans leur déplacement. Pas toujours rassurant. À ce titre, la première séquence est complètement dingue. On voit des jeunes Ivoiriens qui font de la voltige sur des minibus lancés à pleine vitesse. Autre exemple, avec ce camion qui est conduit par Yako, c'est un sexagénaire. Il transporte une vingtaine de passagers, tous inquiets, alors qu'il doit parcourir quelques dizaines de kilomètres jonchés de trous et de ponts de fortune.
La route n'est pas bien longue, 45 petits kilomètres. Mais en cette période de pluie, Yaku met entre 6 et 8 heures pour atteindre le dernier village. C'est effrayant, mais c'est un exploit.
Il connaît son travail, tu as vu le pont, comment il est passé. Si c'est les enfants, ils vont faire renverser les gens.
Dans la benne, chacun prend son mal en patience.
On ne peut pas s'asseoir. Moi-même, quand je suis arrêté debout comme ça, ça me fatigue beaucoup. Il y a des femmes et des enfants. Tu vois, le camion, là, ça penche comme ça. Là, nous-mêmes, on a peur.
Ce qui est fort dans vos reportages, Tony Comiti, c'est que ce n'est pas des caméras automatiques que vous utilisez. Vos journalistes sont au plus près des passagers.
Oui, alors, là, dans le cas de Yaku, il a, qui a ce vieux bus rafistolé, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le village où il habite, au fin fond de la Côte d'Ivoire, tout le monde participe à la réparation de son bus. Parce que sans son bus, il n'y aurait pas de communication avec les autres villages.
Ouais.
Et il vit là avec ses 6 enfants et le fils aîné, son fils. Donc Yaku voudrait que le fils aîné prenne la relève parce qu'il est fatigué, il est vieux, il est épuisé. Et le fils aîné, lui, alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, au fin fond de la Côte Côte d'Ivoire, ils ont Internet. Et le fils de Yacou, lui, bah, il rêverait plutôt de Booba, de la fouine, de faire de la musique, ou faire en tout cas des études. Et puis finalement, on verra à la fin du film que le fils de Yacou, bah, finalement, il va essayer de prendre la relève de son père. Ce qui est formidable dans Les Routes de l'Impossible, parce que maintenant, on évolue avec, surtout sur la forme, avec les drones, les caméras embarquées et tout ça. Et c'est, Les Routes de l'Impossible, c'est pas de l'illustration et des interviews. Comme on partage la vie de ces gens-là, finalement, ils nous oublient complètement. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ce que j'appelle « passe-moi le sel », c'est les discussions qu'il y a entre eux, qu'on capte et après qu'on fait traduire. Et c'est comme ça, Les Routes de l'Impossible. C'est qu'on partage tellement la vie de ces gens-là qu'on est avec eux, on est embarqué avec eux.
Ces Routes de l'Impossible vous permettent d'aller dans des endroits très reculés. Là, en l'occurrence, on était en Côte d'Ivoire, à la rencontre d'Ivoiriens qui ont une vie très difficile. C'est le cas de ces enfants. Vous parliez d'humains, des enfants qui travaillent dans des plantations de cacao.
À l'heure où la plupart des enfants prennent la direction de l'école, d'autres s'enfoncent dans la forêt. Jaurès, 11 ans, travaille sur la plantation de cacao de son père avec ses copains et le reste de sa famille.
C'est mes petits frères Pythagore avec Thalès.
Ils iront à l'école entre deux récoltes. En attendant, leur quotidien est harassant.
Je vais travailler dans notre champ de cacao. Je quitte le village à 5 heures du matin. Mais quand j'arrive, je suis déjà si fatigué qu'on dirait que j'ai déjà travaillé.
Il faut dire que Jaurès, Pythagore et Thalès marche plus de 2 heures à travers la montagne.
Là, on est dans l'humain totalement.
Ben oui, Les Routes de l'Impossible, c'est pas uniquement du baroud, hein, c'est qu'on regarde, on fait des pas de côté pour expliquer un peu comment fonctionne le pays sans faire de la géopolitique. Donc c'est à travers les enfants. Moi, ce qui nous a étonné sur la Côte d'Ivoire, c'est l'extraordinaire énergie de la jeunesse ivoirienne. C'est eux qui relèvent le pays, en fait. Donc, alors évidemment, dans ces exploitations de cacao où ils gagnent 1 euro par jour, ils savent et ils voient que le prix du chocolat est très haut dans l'Occident. Et aujourd'hui, ils s'en rendent compte. Mais bon, ils continuent. Et lorsqu'il n'y a plus de récolte de cacao, ben, ils vont faire autre chose. Ils vont creuser pour essayer de trouver de l'or.
Ouais. Je voudrais qu'on entende quand même un son, parce que ce qui fait la force, on va l'entendre juste après ça, on marque une pause. Je voudrais qu'on entende un son qui fait vraiment très très peur, et puis aussi qu'on s'éloigne un petit peu de ça pour parler d'autres activités que vous avez, Tony Comiti, parce que vous êtes un très très grand producteur de télévision. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier?
On va dire 50 ans, c'est terrible.
Ça fait 50 ans que vous travaillez, vous avez quel âge?
70, j'ai démarré à 19 ans.
Tony Comiti est avec nous et la société de production qui porte son nom, Culture Média, continue à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Nous sommes avec Tony Comiti, Les Routes de l'Impossible. C'est demain soir à 20h50 sur France 5. Ça va se passer en Côte d'Ivoire.
Dimanche soir, pardonnez-moi.
Vous intéressez aux routes, mais aussi aux véhicules. Exemple, une sorte de minibus. On est en Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup. Des véhicules qui sont souvent hors d'âge, rafistolés de partout. Mais ce qui n'empêche pas les chauffeurs d'aller vite, très très vite.
Les 60 km qui relient Ganoa à Gayo sont un cauchemar. Pour ne rien arranger, Zoom va garder le pied sur l'accélérateur. Il a une idée en tête. Enfin, si la mécanique tient le coup. Et sur cette piste, c'est loin d'être gagné.
Ça fait très très peur. Vous en avez tourné, Tony Comiti, c'est vous qui... Non, c'est pas vous qui tournez, maintenant vous êtes le patron.
Oui, ouais, là c'est mon fils, Charles.
Mais vous en avez tourné vous-même?
Oui, j'ai tourné au début, Les Routes de l'Impossible.
Vous avez eu peur?
Peur, la peur c'est d'avoir peur. Hein.
Je vais poser la question différemment. Vous avez plus peur sur un camion avec le précipice en bas ou quand vous étiez avec Pablo Escobar?
Ouh, quelle question. Moi je pense que quand on est derrière la caméra, on se protège beaucoup. Donc la peur où on l'a avant ou c'est après, on a du stress. Mais sur le moment, c'est plus ce qui se passe dans la caméra qui nous pousse, qui nous dirige. Oui, il y a des moments de stress là quand il y a eu cet accident en Côte d'Ivoire. Ce qui est extraordinaire, c'est que les gens ne voient même plus. On partage tellement la vie de ces gens-là qu'ils oublient la caméra. Donc on assiste là à une engueulade avec les passagers du bus qui disent tu allais trop vite, et le chauffeur dit non, j'allais pas trop vite. Il dit mais c'est ton camion qui est pourri. Non, il est pas pourri. C'est la route qui est pourrie. Donc j'adore ces discussions entre eux.
Il vaut mieux.
Et ça c'est le vrai reportage quoi.
Si je puis me permettre, il vaut peut-être mieux se friter avec lui. avec le chauffeur du bus qu'avec Pablo Escobar. Oui. Côte d'Ivoire, or et cacao pour quelques pépites, c'est le titre. Et justement, vous filmez des mines d'or artisanales, des grands trous dans la terre rouge et humide de Côte d'Ivoire, étayés quelques chétifs morceaux de bois. Y descendre, y travailler, c'est très dangereux. Et là encore, on est au plus près de ceux qui s'échinent à trouver de l'or.
15 mètres plus bas, le risque est permanent. Mais qu'importe. Entre mourir de faim en cultivant du cacao ou devenir riche en affrontant le danger, le choix est vite fait. L'or est enfermé dans ces pierres. Celles qui en contiennent le plus se trouvent encore plus profond, vers 20 mètres.
Vous trouvez beaucoup d'or ici ?
Pas assez, pas assez. Trouve un peu. Pas beaucoup.
Il y en a peu, mais toujours assez pour rêver.
On l'a entendu, il y a du danger, il y a de la peur, et pas seulement dans les bus, dans les camions, vous êtes au plus près. Il y a déjà eu des accidents sur des tournages ?
Écoutez, je pense qu'il y a un bon Dieu hein, pour les reporters, pour les routes de l'impossible aussi, pour ceux qui voyagent. Là, par exemple, pour descendre dans le trou, c'est-à-dire où vous restez à l'extérieur du trou de la mine, elle est quand même à 30 mètres de fond, dans la boue, au milieu de... ça s'effondre. Ou bien vous restez à l'extérieur de la boue, ou bien vous de la mine, pardon, ou bien là Julien Bolwell et mon fils Charles Comity se dit bon ben on va descendre pour montrer qu'est-ce qui se passe en bas. Alors la peur, elle peut venir avant, ouais. Mais une fois qu'on est...
Non, ma question c'était, est-ce qu'il y a déjà eu des accidents ? Non, pour l'instant
non,
rien.
Écoutez, grâce à Dieu,
on croise les doigts. En 13 ans, 61 pays visités, on a fait le compte, 23 en Afrique, 21 en Asie, 16 en Amérique latine, 1 en Océanie, en l'occurrence c'était l'Australie, rien en Europe, rien en Amérique du Nord, pour quelle raison ?
Parce que
les routes sont sûres ou pas envie de tourner là-bas ?
Non, c'est parce qu'en Europe, si là on va partir en Ukraine, donc, mais parce que là, en Occident, les routes sont impeccables. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, nos terrains de chasse, c'est au fin fond de l'Afrique, au fin fond de l'Asie, au fin fond de l'Amérique du Sud.
Est-ce qu'il y aura une quatrième saison des routes de l'impossible l'an prochain, 14e ?
Écoutez, France 5 est tout à fait aime beaucoup cette collection. Ouais. Et Catherine Alvarez et son équipe adorent cette collection, donc je vois pas pourquoi on arrêtait. Ce qui a été compliqué là, avec la coronavirus, c'est de se déplacer. Ouais. Mais on a trouvé des solutions pour passer d'un pays à l'autre. Voilà. En Colombie, c'est le Quai d'Orsay nous a aidé à monter dans un vol humanitaire. Mm-hmm. Donc non, on trouve les routes de l'impossible. Et si vous voulez, on écoute les gens qui voyagent. Et l'émission maintenant est connue dans le monde entier parce qu'on exporte partout. Donc les gens connaissent cette émission et sur les réseaux sociaux, ils nous racontent des histoires. Donc on s'inspire aussi beaucoup des gens qui voyagent et de nos correspondants. Je voulais juste, si vous voulez bien, Philippe, citer un de nos correspondants en Irak qui a disparu depuis 25 jours, qui s'appelle Assad El-Fakri, qui a été enlevé par des milices, et on commence à être très préoccupés. Ça fait 25 jours qu'on n'a pas de nouvelles de lui.
Très très important, les fixeurs pour le travail sur le terrain. Redites son nom, plus on parle de ces gens, plus on a une chance de les sauver. Son nom ?
Assad El-Fakri.
Vous dirigez une société, la société de production qui porte votre nom, Tony Comity Productions. Vous avez tourné beaucoup de sujets avec les policiers, avec les gendarmes. Et le mois dernier, vous avez signé une tribune avec d'autres producteurs, avec des directeurs de rédaction, avec des journalistes. Vous vouliez dénoncer les nouvelles conditions imposées par le ministère de l'Intérieur pour encadrer les reportages sur les forces de l'ordre. Élise Lucet était venue nous en parler ici même. Vous n'acceptez pas que le service de communication de la police puisse avoir le dernier mot sur votre montage final. Est-ce que vous avez pu en parler avec le ministère de l'Intérieur ? Est-ce qu'il y a eu une rencontre ?
Alors, il y a eu une discussion, évidemment, avec le ministère de l'Intérieur, mais ce n'est pas uniquement la police, hein. C'est partout maintenant, c'est-à-dire c'est la gendarmerie, mais c'est aussi la PHP, les hôpitaux de Paris, c'est partout. On a de plus en plus de difficultés pour tourner et faire notre métier de journaliste. Alors, ces protocoles, parfois, ils sont utiles. Moi, je dis qu'il ne faut pas jeter le bébé avec tout l'eau du bain. Il y a des problèmes techniques. Mais bon, après, ils ont commencé à rentrer sur les lignes éditoriales et c'est ça qu'on n'accepte pas.
Élise Lucet nous en avait parlé ici, elle était à votre place à ce micro. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit les gens au ministère de l'Intérieur ?
Qu'ils allaient revoir leur position.
Votre société de production, vous l'avez créée il y a 27 ans, un peu plus d'un quart de siècle. Vous avez réalisé et produit des centaines de reportages, de documentaires diffusés sur quasiment toutes les chaînes françaises. Qu'est-ce qui a changé dans le métier en un quart de siècle ?
En matière de ?
Télévision.
Ça évolue partout. Alors, ce qui change aujourd'hui, c'est Aujourd'hui, les gens ont pris conscience de ce que la télévision, de ce que le journalisme peut influencer sur leur vie. Donc, les réseaux sociaux et tout ça. Donc, ce qui change aujourd'hui, c'est que ça devient de plus en plus difficile de filmer, notamment derrière les murs de notre société. Ça devient très compliqué. Il y a partout des directeurs de communication qui font tout pour nous empêcher de faire notre travail ou pour utiliser notre travail. Donc, pour rester indépendant, ça devient compliqué. Alors, ce qui évolue, d'abord sur la forme, aujourd'hui, les nouvelles caméras, qui sont des caméras pratiquement de cinéma, les drones, les caméras embarquées, l'infiltration. C'est ça qui évolue, il faut s'adapter. Le journalisme, c'est avant tout s'adapter.
Vous étiez photographe au début de votre carrière, vous avez notamment pris des photos de l'ennemi public numéro 1, Jacques Mesrine ou Jacques Mérine, c'était fin 77, alors qu'il était dans le quartier de haute sécurité de la prison de la Santé. Vous disiez, on ne peut plus filmer hors les murs. Là, vous étiez arrivé, vous étiez dans les murs. C'était un coup, un scoop, comme on dit. Ça serait quoi l'équivalent de ce scoop maintenant ?
Bou Médiane ? Ben oui. La petite qui a été condamnée à perpétuité. Là, qui est...
De la retrouver ?
Il faut la retrouver.
Mais est-ce qu'elle est vivante ?
Ah ben ça, c'est une question d'enquête.
La femme d'Amélie Coulibaly.
Aujourd'hui, ça serait un scoop extraordinaire. Mais bon, on n'est pas chasseur de scoop. Mais quand un scoop, nous, ce qu'on essaye de chercher, c'est la vérité, d'accord ? Et la vérité à la télévision, c'est pas comme la presse écrite. Il faut aller sur le terrain et prouver par l'image.
Bien sûr.
Donc, un scoop aujourd'hui, ben voilà, ça serait plutôt elle, oui.
Vous savez quoi, Tony Comiti ? Quand vous l'avez, le scoop, vous venez ici nous le raconter.
Avec plaisir, Philippe.
Plaisir partagé. Merci beaucoup. Côte d'Ivoire, or et cacao pour quelques pépites. C'est le nouveau numéro des Routes de l'Impossible. C'est dimanche soir, après-demain, à 20h50 sur France 5. Et dans un instant, on va parler du retour de la série Fais pas ci, fais pas ça. Retour le temps seulement d'une soirée pour un épisode spécial Noël. Ce sera sur la 2. Nous serons avec la comédienne Valérie Bonneton et le producteur Guillaume Renouille. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vondel.
Bonjour Valérie Bonneton.
Bonjour.
Faut-il vous présenter ? Vous êtes comédienne, est-ce qu'on peut dire chanteuse aussi ?
Bah maintenant oui.
Maintenant oui, on vous écoute.
S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce monde un rêve, une éternité.
On se marre tous ici dans le studio. Valérie Bonneton qui chante Céline Dion, c'est ce soir sur France 2. Bonjour Guillaume Renouille.
Bonjour.
Vous êtes producteur de la série Fais pas ci, fais pas ça qui revient ce soir sur la 2 avec un épisode inédit. Y aura-t-il Noël à Noël ? Très bon titre, suivi d'un documentaire sur les coulisses. Et c'est dans cet épisode qu'on entend Valérie Bonneton qui chante. Vous allez comprendre pourquoi. Vous relancez la série après 3 ans d'absence, 10 ans au sommet. C'est venu de la chaîne, c'est une commande ou c'est vous qui avez proposé ça à la chaîne ?
Non, c'était une envie qui courait depuis quelque temps. La chaîne nous demandait régulièrement est-ce qu'on ferait pas un petit retour comme ça, le temps d'un film événement. Et puis un jour, on s'en est parlé avec les comédiens. Je me rappelle, on était dans un taxi avec Valérie. Elle me disait, tu crois que ça serait possible de refaire un film comme ça ? Je dis, bah écoute, ouais. il faut avoir la bonne idée.
Ouais.
Mais je sais que France 2 serait très très content. Ils en parlent régulièrement. Et puis voilà, on s'est tous appelés et tout le monde était partant.
Et c'était de nouveau un miracle parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, cette série, c'est un miracle. Parce qu'on a pu réunir à chaque fois tout le monde alors que tout le monde travaillait, etc. Et puis là, l'idée est venue. Et puis ça a été possible. Et aussi grâce à Michel Leclerc parce qu'il fallait un très bon scénariste, un bon réalisateur, et là on a été gâtés.
Alors justement, le scénario, Valérie Bonneton, vous interprétez évidemment Fabienne Lepic. L'épisode de ce soir démarre quand vous gagnez un jeu à la radio, vous remportez ce lot. Le lot, c'est un voyage à Las Vegas pour un concert de Céline Dion, d'où la chanson, mais ça tombe le jour de Noël et c'est là que les ennuis commencent.
Exactement. Oui,
mais c'est à vous de raconter la suite.
Pardon.
Je peux raconter.
Mais non, ce que je trouve, ce qui est génial, ouais, c'est que Michel Leclerc a eu l'idée d'écrire cet épisode il y a un an et d'être empêché de passer Noël aujourd'hui dans le contexte actuel. C'est complètement dingue, en fait. Y aura-t-il Noël à Noël ?
Mais ce titre, on l'a choisi il y a un an.
C'est complètement fou.
Pour des raisons différentes, et aujourd'hui, c'est vrai qu'il a...
Et il traite beaucoup de sujets d'actualité, mais de façon très légère.
Ouais.
Donc... c'est-à-dire Fabienne Lepic qui veut absolument partir à Las Vegas voir Céline Dion. Elle va persuader son mari parce que là-bas il y a des robinets en or, comme lui il est numéro 2 dans les robinets.
Alors de leur côté, vous êtes marié à Guillaume de Tonquédec, de l'autre côté il y a les Boulets, Isabelle Génilas, Bruno Salomon. Eux, ils veulent fêter un Noël sobre, écolo, responsable. Guillaume Renouille, le Covid est présent dans l'épisode, c'était pas prévu ça.
Non, ça, c'était pas prévu. Ça, c'est venu en cours d'écriture. Et parce qu'on a démarré l'écriture tout début 2020.
Ouais.
Donc, on était parti sur des bases et tout. Et puis, c'est vrai que quand la Covid, j'ai du mal à dire la Covid, mais quand la Covid est arrivée, Michel a intégré ça. Alors, pas de façon appuyée, parce que l'idée, c'était de garder un ton léger et un film de Noël, quand même. Ouais. Et puis, c'est vrai que quand on écrivait, on avait quand même l'espoir qu'à Noël, ça serait un peu mieux. Après, quand on a tourné en octobre, on s'est rendu compte. Donc, on a rajouté un peu des visières, quelques protections qu'on n'avait pas prévues, juste pour tenir un peu compte des gestes barrière un peu plus que ce qu'on aurait fait.
Ce que je voudrais dire, c'est que voilà, la réussite de cet épisode et aussi de la série, c'est vraiment parce qu'on est tous ensemble, c'est une équipe et Guillaume est un excellent producteur, vraiment, c'est-à-dire qu'il est très impliqué, ce qui n'est pas toujours le cas.
Ah oui.
Donc non, c'est particulier vraiment et on se sent vraiment en confiance, on est libre, on travaille ensemble, on se fait des lectures, etc. Et voilà, c'est très agréable parce qu'il faut beaucoup de patience avec les acteurs, vous savez.
Oui, vous dites ça pour vous.
Je ne sais pas, en général, il en faut quand même, forcément.
Les fondamentaux de Fais pas ci, fais pas ça, on va entendre un premier extrait, Valérie Bonneton. Vous êtes avec Isabelle Gélinas au supermarché. Et face au discours de la mère de famille Bobo, vous pétez un câble.
Bon, alors moi, je pense que le plus simple à bien encore, c'est qu'on prépare un menu de réveillon par personne.
Stop ! Vous êtes complètement dingue. Vous êtes dingue, les bobos, quoi. Avec vos allergies, vos flexicas, machin, c'est pas possible. Enfin, un menu par personne. Mais c'est quoi l'esprit de Noël, Valérie? C'est quoi Noël pour vous? C'est quoi Noël?
C'est quoi? C'est la fête, c'est les cadeaux.
Ah, c'est tous ensemble, c'est le partage du pain et du vin.
Ouais, enfin.
C'est quoi la scène? La scène, c'est quoi la scène?
Un fleuve.
Non, c'est Jésus, c'est les apôtres. Hein, ils partagent tous ensemble, ils mangent tous ensemble en même temps la même chose. C'est-à-dire qu'ils mangent tous ensemble le champagne, les huîtres, le foie gras, la dinde. C'est pas un menu par personne.
Ils mangeaient du foie gras, Christ. Oui. Ça m'étonnerait, hein, parce que mettre comme un coucou, pas un fait de graisse.
Il n'a pas eu le temps de grossir, le pauvre, un peu de respect.
Et vous dites, Valérie Bonneton, vous dites que dans la vraie vie, il vous arrive jamais de péter un câble. C'est pour ça que vous avez fait ce métier? Pour faire des choses que vous ne pourriez pas faire dans la vraie vie?
Ça, c'est depuis l'enfance, oui, c'est un besoin très fort de m'exprimer, en tout cas, ouais. C'est sûr. Mais non, je crois que je suis de plus en plus calme, hein, sérieusement.
C'est
bon. Regardez, le taxi n'arrivait pas, je suis très calme.
Et vous êtes là. Alors, il faut dire que Fais pas ci, fais pas ça, pour qui ne connaîtrait pas, c'est pas seulement une série comique. Ça dit des choses sur la société. Par exemple, il y a les deux familles Bobo et Tradi qui décident à un moment de passer Noël ensemble. Je ne vais pas donner tous les détails pour spoiler, mais j'aimerais qu'on entende cet extrait pour que tout se passe bien. Ils décident de faire une liste de sujets interdits et autorisés pour pas s'engueuler à ce moment-là, surtout avec l'alcool. Il y a même une des filles qui a pris un sifflet pour tout arrêter quand ça va trop loin. Extrait.
Alors allez-y, proposez des sujets.
La France insoumise.
Oh, alors là, c'est anarchiste à la mort moelle-neux.
Interdit la France insoumise.
Tant mieux. Bon, allez, un autre sujet, là.
Le réchauffement climatique.
Alors, quel réchauffement climatique?
Oh là là,
moi, je suis de l'école Claude Alex.
Interdit le réchauffement, interdit. Autre sujet.
Le vélo à Paris.
Ah ben, alors ça, parlons bien, parce que la mairie d'Hidalgo... Et tu ne siffles pas, ma chérie. Non. Parce que la mairie d'Hidalgo, il faudrait l'enfermer dans un bagne à Cayenne. Parce que franchement, des heures pour faire 200 mètres. Alors, la coupe est pleine, moi, j'en peux plus. Celle-là, elle a qu'à pédaler,
Mais n'allez pas contre le progrès.
Il y a 100 ans, on passait du vélo à la voiture. Aujourd'hui, on passe de la voiture au vélo, mais ça, c'est un retour en arrière.
Exactement.
Un retour en arrière.
Attendez, vous avez bien remarqué que toutes les grandes villes de France ont des maires écolos.
Exact. Hein,
que vous le vouliez ou non, à un moment, à l'époque, nous donne raison.
T'as raison.
Hein, attention, parce que l'histoire jugera.
Bon,
interdit à Hidalgo, c'est bon, stop.
Ah oui, c'est interdit. Marc, en gros, Hidalgo interdit. Très bien, ça.
Je vous demande pas si c'est pour ça que ça roulait mal, Hidalgo interdit. Guillaume Renouille, rien que dans cet épisode, ça parle d'écologie, mais également d'engagement, de bénévolat, de pauvreté, des véganes, d'homosexualité. C'est la marque de fabrique de Fais pas ci, fais pas ça.
Au fil des saisons, on a voulu être proche de la société, des évolutions de la société, et que ça soit des familles qu'on connaît et qu'on aime beaucoup, qui vivent ces changements de société, ça permet de garder le contact et que les gens se reconnaissent dans ce que traversent les deux familles. Donc, et c'était vraiment important au cœur de l'épisode de Noël de remettre un peu cette opposition de base en scène.
C'est quoi? Il y a mon réalisateur Nicolas Souvent qui me dit qu'on est un peu à la bourre, il faut qu'on passe à table, on marque une pause et on se retrouve tout de suite. Valérie Bonneton, Guillaume Renouille.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Y aura-t-il Noël à Noël? C'est le titre magnifique de l'inédit de Fais pas ci, fais pas ça. C'est ce soir sur France 2. Nous sommes avec Valérie Bonneton, comédienne, Guillaume Renouille, vous êtes producteur. Je précise que c'est un film prémonitoire puisqu'il y a même un passage consacré au sapin en bois mort avant que le nouveau maire de Bordeaux fasse une sortie à ce sujet. Valérie Bonneton, il y a beaucoup d'impro où tout est écrit au cordeau?
Alors, moi, je ne suis pas fan des impros, sérieusement. Ouais. Ce que j'adore, c'est m'approprier complètement le personnage, vraiment. C'est-à-dire, donc, en discuter bien avant. Et puis, ce qu'on fait souvent, c'est-à-dire de réécrire ensemble avec Guillaume, avec Michel Leclerc. Je peux proposer des scènes, par exemple, comme dans la cuisine, quand je chante. Ouais. Voilà. C'était pas écrit, donc et c'est très agréable parce que on est vraiment vraiment à l'écoute, vraiment voilà, et Guillaume a vraiment un œil formidable.
Ce qu'il y a de remarquable dans cette série, c'est qu'elle a démarré en 2007. Jusque-là, j'apprends rien à personne. Elle s'est terminée en 2017. Et les enfants grandissent dans la série. Est-ce que les ados qu'on voit dans ces épisodes sont les enfants du début ?
Alors, tous les enfants sont ceux du début. Ouais. Il y a une exception en fait notable, qui est la fille des boulets. Parce que c'est vrai que dans cet épisode de Noël, le rôle qui lui était écrit de cette espèce de Greta Thunberg, de dictateur écolo à la maison, il y avait beaucoup beaucoup de scènes à jouer, et du coup on a dû refaire des essais et changer la petite comédienne, voilà, qui est super dans le film. Mais c'est le seul changement par rapport à tous les autres, et c'est vrai que les voir grandir, c'est un truc.
Et vous aviez pas peur de voir un enfant qui est génial, qui ensuite en grandissant devient un ado boutonneux atroce et un mauvais comédien?
Mais ils sont tous passés par là, mais comme nos enfants. Non, mais l'avantage c'est qu'on les a vus grandir. On n'a jamais changé le casting pendant les 9 saisons.
Non, donc franchement, ils sont merveilleux, tous, c'est incroyable.
Il n'y a aucun souci.
Hein.
Alors, Fais pas ci, fais pas ça, c'est également célèbre pour la chanson du générique chantée par Dutronc. Vous avez même fait un générique version Noël, musique.
Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas ci, fais pas ça, à dada, proto, télé, à cheval sur mon billet. Fais pas tes doigts dans le nez, tu sors ton pouce.
Valérie Bonneton danse sur son fauteuil dans le studio. Guillaume Renouille, ça s'est fait dans quel ordre ? C'était votre titre de départ ou à cause de la chanson, vous avez dit, tiens, c'est un bon titre pour la série ?
Non, le titre de départ de la série, c'était « Peut mieux faire », qui n'était pas un très bon titre, parce que c'est un titre un peu négatif.
Ah non, on peut mieux faire, c'est le cas de le dire.
Et c'est vrai qu'avec Thierry Bizot, qui est mon associé producteur, qui est fan de musique comme moi, on s'est dit que ça serait génial de trouver une chanson qui lance la série. Et puis on a eu l'idée de Fais pas ci, on a demandé les droits, on les a obtenus, enfin tout ça s'est passé de façon assez fluide. Mmh. Et après on s'est dit, l'idéal, ça serait de garder le titre de la chanson pour la série, et voilà comment ça s'est fait, de façon très simple.
La question que tout le monde va vous poser, là c'est un unitaire, est-ce que vous pourriez relancer une saison ?
Non, c'est pas l'idée. Franchement, non. Déjà revenir, c'est quelque chose qui est venu comme ça, comme une surprise. Mmh. Franchement, une surprise qu'on a tous très bien vécue et ça s'est hyper bien passé. Et ça a été un tournage joyeux malgré les conditions un peu bizarres, parce que c'est comme la première fois qu'on faisait un tournage comme ça.
Au contraire, c'était vraiment de réaliser la chance qu'on avait de travailler.
Relancer une saison, je pense que c'est aussi pour ça qu'on avait arrêté la série à l'époque. C'est-à-dire, les enfants ont beaucoup grandi, tenir des saisons entières, faut pas quoi. À un moment, on va un peu s'épuiser. Faire un unitaire autour de Noël, c'était la bonne idée, je pense.
Justement, vous parlez de l'époque. Valérie Bonneton, vous a vu au cinéma dans Les Petits Mouchoirs, La Petite Famille, le film sur les volcans avec un nom impossible à prononcer, La Garde Alternée d'Alexandra Leclerc, prochaine sortie annoncée. Vous avez tourné des choses qui ne sortent pas, vous pouvez tourner, comment ça se passe ?
Si, qui vont tourner. Enfin, en tout cas, j'ai fait le film de Marc Duguin, Eugénie Grandet, avec Olivier Gourmet, Joséphine Japy.
C'est annoncé pour 2021.
Oui, donc ça, j'étais très heureuse parce que c'est vraiment différent et voilà, c'est bien de faire des choses vraiment différentes. Pas que des comédies. Aussi Alain Tasma, une mini-série Voltaire, donc avec Thomas Oliveres, ça c'est super. Et puis là, je vais tourner le film de Laurent Tirard, dans une histoire de couvent avec des bonnes sœurs, avec une actrice qui s'appelle Cis Babette Knudsen,
l'actrice principale de Borgen.
Voilà. Et vous faites quoi ? Et vous répétez en ce moment ? Qu'est-ce qui se passe ?
Et là, je répète en ce moment, c'est complètement fou.
C'est-à-dire ?
On répète, alors je me régale, on travaille, on est très heureux, mais on ne sait pas si on jouera.
C'est-à-dire que vous répétez dans le vide d'une pièce,
pièce ? On répète une pièce, oui, la pièce de Sébastien Thierry au théâtre Édouard VII, on répète.
Pardon de rire, hein, mais c'est pas drôle du tout.
Non, c'est pas drôle, et alors que les gens, s'ils étaient au théâtre le soir, ils seraient bien rangés, ils ne risquent pas d'attraper le Covid, tandis que chez eux, à 20...
On est bien d'accord. Hein vous annonciez, vous avez dit récemment, Valérie Bonneton, l'avenir des acteurs est à la télévision. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Et après, je vous demandais à Guillaume Renouille s'il est d'accord avec ça.
Ah non, mais j'ai dit ça il y a très très longtemps.
Non, c'était en 2019, c'est pas très longtemps. Ouais. C'est l'an passé.
Je l'ai redit alors.
Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Guillaume Renouilly? Est-ce que l'avenir des acteurs est à la télévision?
Non, l'avenir peut-être pas, mais en tout cas, les acteurs, ils s'en rendent de plus en plus compte. Ils peuvent faire des trucs super à la télévision. Il y a des rôles, il y a des séries, il y a des rôles qu'on peut jouer sur la longueur. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, avec l'arrivée des plateformes, il va y avoir de plus en plus de séries produites, donc la télévision. Et puis cette année, en période de Covid, malheureusement pour les artistes, mais c'est vrai qu'on, quand on ne peut pas être sur scène, quand même les tournages de cinéma parfois sont repoussés, bah, les tournages d'audiovisuel, télé ou plateforme, ils ont réussi à continuer. Donc ça a permis une activité quand même pour beaucoup de gens.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a 15 ans, quand on m'a proposé cette série, je me souviens que les questions des journalistes c'était « Mais alors, de faire de la télé, est-ce que c'est pas... »
Est-ce que ça va pas nuire à votre image ?
Bien sûr, mais on s'en fiche, peu importe le support. Si l'écriture est là, moi j'avais tout de suite adoré l'écriture, je me suis dit bah, « Bien sûr, j'y vais. »
Et donc c'est quoi ? Je confirme, l'écriture est là. Merci beaucoup Valérie Bonneton, merci Guillaume Renouilly. Je rappelle, il y aura-t-il Noël à Noël, inédit de « Fais pas ci, fais pas ça ». C'est ce soir sur France 2, suivi d'un documentaire sur les coulisses. Et pour en savoir plus, vous pouvez retrouver le podcast Europe 1 Série Land. Il consacre 2 épisodes à Fais pas ci, fais pas ça, avec en invité votre mari, Guillaume de Tonquédec. Culture Média continue évidemment. Après le rappel des titres de 10h, on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un documentaire qui rassemble des archives incroyables de Marie Laforêt et Bertrand Chamerois pour son écran de veille. Il a regardé la façon dont les chaînes d'infos ont annoncé qu'Emmanuel Macron était positif au Covid. Si ça vous a échappé, c'est que vous n'habitiez pas en France. Notre invitée, c'est Marina Carrère-Dancos. Elle va nous présenter son nouveau roman, un polar, Les Enfants du Secret. Et puis dans les indispensables, pardon, le super-héros Captain America qui fête ses 80 balais, il ne les fait pas, et des cadeaux comestibles à offrir à Noël. Il y aura quand même Noël à Noël.
Europe 1 Culture Média. 9h, 11h.